Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h sur RMC. Merci de nous écouter, merci d'être présent et fidèle à Rotten sans flamme. On revient lundi avec Jérôme, toute l'équipe, 18h-20h pour lancer cette deuxième partie de saison, la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. RMC radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. À 19h45, les quiz de Louis Gerbier, toujours un grand moment à ne pas manqué. À 19h30 aujourd'hui, est-ce que Trump va massacrer cette Coupe du Monde? On démarre par une interview, celle de Sébastien Pocognoli, nouveau coach de l'AS Monaco.
Bonjour, merci.
Bonjour coach.
Merci coach d'être là pendant cette trêve. Alors c'est toujours un peu long la trêve internationale, déjà pour nous parce qu'on analyse le foot et la Ligue 1, la Ligue des Champions, et on a hâte que ça se termine. J'imagine que pour vous c'est une façon de encore plus faire connaissance avec votre groupe.
Exactement, je pense que la trêve par rapport à ma timeline, quand je suis arrivé au club, elle est arrivée au bon moment maintenant. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé, c'était juste après une trêve internationale où on a enchaîné 7 matchs en 3 semaines et on n'a pas eu beaucoup le temps d'aller dans le détail ou même dans l'approche plus individuelle avec les joueurs. Et cette trêve nous permet d'avoir une multiple fonction. Premièrement, c'est de donner un peu de repos à certains joueurs qui ont enchaîné énormément de matchs. Une deuxième, c'est d'aller un peu plus dans les détails à l'entraînement sur certains aspects du jeu. Et aussi pour moi en tant que coach et humain, c'est de bien m'installer à Monaco et de mettre un peu ma patte à tous les niveaux, que ce soit à la Turbie, mais même dans ma vie privée.
Coach, vous savez, vous êtes certainement au courant, parce que consigne à AS Monaco, on se renseigne aussi. C'est vrai que ce qui fait le plaisir des passionnés de l'AS Monaco et des équipes de l'AS Monaco, celles qui ont performé, il y en a eu beaucoup de génération en génération, c'est avant tout la grande qualité technique et ce spectacle qui est souvent au rendez-vous au Stade Louis II. Vous êtes conscient de cette pression que vous avez quand même pour remettre ça en place?
Oui, mais c'est comme vous le dites, il faut le remettre en place. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu des manquements et le fait de venir à Monaco aussi, c'est me dire qu'est-ce que je peux apporter avec cette venue. J'ai forcément analysé le groupe, la situation qui était il y a quelques semaines. Et je me suis dit, ok, il y a peut-être moyen d'avoir un impact à court terme, mais certainement sur le long terme. Mmh. Donc oui, Monaco, c'est connu pour déployer du bon jeu pour au final permettre à certains joueurs d'avoir ce fameux tremplin vers le sommet européen qui est stimulé par une académie de très haut niveau. Mm-hmm. Donc si on veut stimuler ça, il faut faire du bon jeu. Si on veut faire du bon jeu, il faut le combiner aussi aux résultats parce que on dépend aussi de la scène européenne pour mettre tous ces joueurs en valeur. Donc il y a cette combinaison d'attentes collectives, mais aussi d'attentes individuelles dans la performance. Et ça, c'est un travail vraiment de fond. Et c'est sur ça que je suis occupé à faire. Et je pense que contre Tottenham, on a vu un match de très très bon niveau technique.
Des belles choses, ouais, c'est vrai.
De très belles choses. Nantes aussi. Toulouse, c'était moins joli, mais on a été consistant dans vraiment le... Le garder le zéro et faire une victoire un peu plus moche, ce qui fait partie aussi du
ça fait partie
saison.
Du jeu, ouais.
Voilà, Bodø/Glimt, on a été un peu dominé, mais on a pu avoir une belle victoire,
un vrai
au caractère,
mais bravo, ouais.
qui n'était peut-être pas dans l'ADN de l'AS Monaco,
c'est sûr.
Mais si on arrive à combiner ça avec le match de Tottenham sur le long terme, on va avoir des bonnes choses. Maintenant, c'est bien de le dire, mais il faut le faire.
Ouais. Coach, justement, Sébastien Pocognoli, entraîneur de l'AS Monaco, invité de Rotten sans flamme ce soir. Vous avez forcément découvert aussi ce que représente le contexte monégasque. À chaque fois qu'on en parle, Jérôme Rotten a envie de me sauter dessus parce que c'est particulier comme club. L'AS Monaco, c'est un club qui est ambitieux, qui est une référence dans le championnat de France, mais qui parfois peut manquer d'engouement. C'est vrai qu'on parle beaucoup moins de Monaco que de Paris ou de l'OM par exemple. Est-ce qu'il est dur à appréhender pour un entraîneur ce contexte monégasque? Est-ce que c'est dur parfois de motiver des joueurs quand ils jouent à l'AS Monaco malgré tout le talent qu'ils ont?
Mais ça, c'est la question fondamentale. C'est dans quel environnement j'arrive, quel est l'ADN du club, quelles sont ses forces et quels sont ses, oui, peut-être ses manquements qu'à un certain moment. Je pense que l'AS Monaco a plus de qualités que de manquements par rapport à,
c'est sûr.
À l'ADN. Ça, c'est une certitude, mais il y a certains aspects qu'il faut tenir en compte, qui peuvent altérer le focus ou cette rigueur au quotidien. Je pense que le rôle du club en général et de la direction, c'est aussi d'avoir un coach qui peut apporter cette pierre à ce contexte. Moi, je suis un entraîneur avec une certaine rigueur de travail où l'aspect collectif est beaucoup plus importante pour moi que l'individu, même si mon travail au quotidien, c'est de développer l'individu. Mais cet esprit de travail, de rigueur et de demande, elle est propre à mon ADN. Ça, c'est
vous avez
c'est
constaté un manque à ce niveau-là dans votre effectif ? Peut-être des joueurs qui s'endormaient un peu malgré leur qualité ?
Premièrement, je n'ai pas encore vu tous les aspects de mon noyau. Donc ça, c'est peut-être une question qu'on pourra me reposer dans quelques semaines, parce que je pense que avoir des leaders au quotidien sur le terrain qui sont le relais du coach et de ce qu'il veut mettre en place peut donner plus facilement un caractère à une équipe. Bah et oui. Malheureusement, on a eu beaucoup d'absences par rapport à ça. Ce qui m'a permis de voir d'autres choses, hein, qui étaient super positives. Mais la réalité, c'est qu'on est inconstant. Alors, est-ce qu'on est inconstant par rapport à l'enchaînement des matchs? Où on n'a pas trop d'options en profondeur pour pouvoir perdurer sur de la constance avec 2-3 matchs par semaine. Ça, c'est une question qu'on va devoir répondre sur le long terme. Mais moi, ce que je peux voir au quotidien, c'est que j'ai des joueurs qui donnent le maximum par rapport à ce que je demande. Et la constance, ben oui, il va falloir l'apporter. Et ça, c'est mon rôle de coach. Mais je ne vois pas une inconstance qui est due à un laxisme au D'accord. quotidien ou un manque d'envie des joueurs. Maintenant, moi, je peux encore essayer de profiler certains mental de certains de mes joueurs, mais ça, c'est tout coach qui apporte cet impact.
Après,
ça,
c'est mon travail. Si vous avez besoin de débat dans les médias pour réveiller votre club, rassurez-vous, on sera là. Hein. Jérôme Bretagne sera là, Eric Dimeco aussi.
Mais justement pour parler du contexte, avec Jérôme, on a eu la chance de jouer dans ce club-là. Moi, en plus, j'ai eu la chance d'être champion de France en 97 avec deux grands Belges, hein, Enzo Chiffo et Philippe Léonard, que vous connaissez obligatoirement. J'ai pu me rendre compte, et Jérôme aussi à son époque, que pour gagner des titres à l'AS Monaco, il faut être beaucoup plus fort que les autres. Parce que justement, ces moments difficiles dans une saison où on est un peu moins bien, peut-être, fatigue mentale, physique, il n'y a pas la pression extérieure qu'il peut y avoir à Marseille, par exemple, où ça nous booste naturellement, quoi. Voilà. Et je me suis rendu compte que là-bas, d'abord, il faut avoir toutes ses forces en place pour pouvoir être au plus haut niveau, et il faut être plus fort que les autres. Et du coup, ça m'amène cette question. Est-ce que, du coup, avec tous les blessés qu'il y a à l'AS Monaco, est-ce que vous avez pu évaluer finalement le véritable niveau de votre équipe, et est-ce que vous pensez avoir les armes pour jouer une place de qualificative en Ligue des Champions, pardon?
Alors, il y a plusieurs questions, hein, dans cette question. La première, c'est d'être meilleur que tout le monde ou faire plus que tout le monde pour accéder à quelque chose de un trophée à Monaco. C'est ça la première question, hein.
Il faut faire plus, et qu'on
peut être dévié de beaucoup de choses, et ça je le sais. Après, là, je reviens d'un point de vue vraiment d'expérience personnelle. L'année passée à l'Union, je disais exactement la même chose à mes joueurs: on doit faire beaucoup plus que tout le monde, parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas la même influence dans le football belge qu'un club comme Bruges ou comme Anderlecht. On a peut-être un peu moins de poids dans certaines décisions, donc on a aussi des supports. On avait 9000 supporters dans le stade, avec une ambiance bon enfant, qui est propre au club, mais où il n'y aura pas une pression sur l'adversaire au quotidien. Donc, je disais toujours, on doit faire beaucoup plus pour atteindre quelque chose. Et on l'a fait, finalement. Donc, c'est pour ça qu'on a été champion dans cet aspect. À Monaco, il y a d'autres choses pour lesquelles il faut faire beaucoup plus. Et ma question, parce que vous me posez des questions, mais vous qui avez été... qui avait connu le succès à Monaco, c'est quoi la clé pour éviter ces petits pièges? Il y a certainement des éléments, donc vous pouvez peut-être aussi me répondre à ça. Quels sont les
éléments? Les éléments, ouais. Coach, moi je vous coupe, hein, mais les éléments, c'est déjà d'avoir une union sacrée dans le groupe, que ça soit les joueurs avec le staff, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il y a le staff, et je trouve que l'ambiance générale qui doit régner au sein du club, et quand on arrive pour s'entraîner à la Turbie tous les jours, c'est l'état d'esprit de compétiteur qui doit être bien au-dessus de tous les autres clubs, déjà. Et comment on l'a ? C'est à travers le discours de l'entraîneur, ça c'est sûr, et de son staff, parce que c'est lui qui met ça en place. Moi, j'ai eu la chance à l'époque d'avoir Didier Deschamps, et je le dis, hein, c'est un compétiteur hors pair, peut-être le plus grand compétiteur que j'ai jamais connu par la suite, et pourtant j'ai connu beaucoup d'entraîneurs et de sélectionneurs. Et puis après, il y a aussi les relais, mais ça, vous en parliez en fait. Les relais des joueurs qui vont être si vous voulez, pour le groupe de joueurs qui vont empêcher le groupe de s'endormir, ou certains joueurs de s'endormir, parce que c'est bien là le problème, et qu'aujourd'hui, en effet, pour finir sur cette réponse et cette plus ou moins cette question, c'est que ces relais-là, malheureusement pour vous, ils sont blessés.
Alors voilà, il y a une partie de la réponse, et ça a fait que pour installer cet esprit de compétition au sein même du noyau, il faut que toutes les forces vives soient présentes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cet esprit de compétition va forcément assoiffer tout le monde dans le noyau. Alors, le coach a cette responsabilité, et je suis déjà occupé à ça, à vraiment demander beaucoup plus tous les jours. Je peux pas non plus arriver et taper du poids, surtout parce que je dois apprendre d'abord à connaître mon noyau. Et le fait que j'ai beaucoup d'absences, ça me donne aussi le sentiment que je dois donner beaucoup de confiance à des joueurs qui jouaient peut-être moins, et les stimuler dans ce sens. Mais on arrivera forcément dans une deuxième phase d'analyse où la demande sera beaucoup plus haute, parce que le contexte sera bien bien clair. Coach. Donc j'ai bien conscience que cet esprit de compétition et cette demande, elle est faite au quotidien, et on va vraiment certainement s'occuper à ça.
Coach, on va parler des cas individuels maintenant. Alors c'est vrai qu'on a hâte, nous en tant que Français, il est champion du monde, de revoir Paul Pogba sur la pelouse, ou au moins dans le groupe. Est-ce que les nouvelles sont rassurantes pour lui? Parce que je sais que quand vous avez pris l'équipe, il était question qu'il revienne dans le groupe, et il y a eu cette petite blessure à la cheville. Est-ce que là ça va mieux, et il va peut-être intégrer le groupe contre Rennes?
Ça se passe bien, hein, avec Paul, hein, vraiment de manière très objective. Après, il est occupé à s'entraîner dur. Il a repris des entraînements collectifs. Après, voilà, je ne veux pas trop m'avancer, parce que la dernière fois que je l'ai fait, malheureusement, vraiment de manière très malchanceuse, il a été touché à la cheville. Mais ça, c'est hors contexte de l'aspect vraiment purement physique. Donc là, oui, il est bien occupé à l'entraînement. J'avais donné un commentaire sur le fait que on doit juger Paul sur l'instant T et sur ce qu'il va nous proposer maintenant. Et la nostalgie, elle est tout à fait légitime. Parce que c'est une légende du football français, et cette nostalgie, elle doit rester. Mais le football, il se vit à l'instant présent, et ce que moi je peux dire, et vraiment là c'est d'un point de vue purement coach qui protège mes joueurs, c'est que je pense qu'il va encore nous apporter des bonnes choses si le physique lui permet.
Et si... Est-ce qu'il sera là contre Rennes, coach, si tout se déroule?
On a encore une semaine d'entraînement. Il a fait 3 jours là de très bonne qualité. Et moi, je suis toujours quelqu'un de positif pour mes joueurs. Donc j'espère qu'on le reverra très bientôt, pour diverses raisons. Pour le leadership, déjà, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Tout simplement aussi pour le football français, parce que je pense que c'est quelque chose d'important de le revoir sur le terrain, et pour notre club aussi en général, parce que je trouve que c'est très osé comme de m'avoir nommé, mais aussi de permettre à Paul de reprendre cet objectif de revenir sur un terrain. Et je pense que c'est un magnifique projet et challenge.
Et coach, aussi quand vous le voyez sur le terrain à l'entraînement, est-ce que vous constatez cette entre guillemets qualité supérieure? Est-ce qu'on voit que Paul Pogba est toujours un top joueur malgré
il n'a pas perdu ses qualités footballistiques? Non, il n'a pas perdu ses qualités footballistiques, elles sont là, mais il faut que le moteur suive pour permettre à ses qualités de rayonner au quotidien. Et si on met toutes les choses en place correctement, pas seulement le club, mais aussi le joueur. Et je pense que Paul fait le maximum et il travaille super bien pour se donner cette porte pour revenir au plus haut niveau. Tout le monde fait le maximum. Donc à un moment, oui, je pense qu'on pourrait le revoir sous un très bon niveau.
Sébastien Pocognoli, l'entraîneur de l'AS Monaco dans Rotten sans flamme ce soir. Jérôme, Eric, tu as une question.
Oui, en parlant des cas individuels, moi je voulais parler du petit Akliouche là, qui est international depuis peu, qui devient le leader technique de cette équipe. Est-ce que, alors c'est une bonne nouvelle bien sûr, mais est-ce que finalement, on parlait tout à l'heure du contexte des joueurs un peu tauliers qui doivent tirer le groupe vers le haut, est-ce que d'avoir son leader technique aussi jeune comme ça, jeune international, est-ce que c'est pas problématique finalement, puisque les fameux tauliers sont pas là, sont blessés, et qu'est-ce que le coach attend d'un garçon comme lui, si jeune et déjà international?
Alors, forcément, les absences font que on peut dire oui, c'est un problème. Mais moi, je pense que il y a toujours des solutions. Et une des solutions, c'était de donner de challenger certains joueurs pour reprendre ce leadership, ce qui je pense servira au groupe sur le long terme. Et Magnès fait partie de ces joueurs que j'ai dit à un moment. C'est logique qu'au-delà d'être un leader technique, on peut aussi le devenir dans le vocal ou dans le social. Et Magnès a certainement encore une grande marge de progression par rapport à ça. Et je trouve, depuis mon arrivée, qu'il a vraiment été dans le challenge que je lui ai proposé. Et je suis très satisfait de ça. Et maintenant, ça continue avec l'équipe de France. Et son statut au sein du club va continuer à grandir aussi longtemps qu'il reste les pieds sur terre et qu'il continue à travailler comme il le fait. Il va encore franchir un palier cette année et j'en suis vraiment convaincu.
Vous appréciez, enfin vous donnez souvent des objectifs individuels à vos cadres. Quels sont ceux que vous avez donnés à Marnès Akliouche alors?
Tout simplement d'être plus déterminant dans ses prises de décision, que ce soit au niveau vocal par rapport à ses coéquipiers, parce que c'est un garçon assez introverti, mais qui est très, très intéressant une fois qu'on a la discussion avec lui. Mais je trouve qu'il peut le mettre aussi au service du collectif sur le terrain. Et force est de constater que c'est lui qui déclenche les presses, c'est lui qui replace, c'est lui qui voit certaines situations avant même qu'elles se passent. Je vais donner l'exemple de son but hier. Avant la diagonale, le côté opposé, c'est lui qui montre aussi avec son bras la passe à faire et il anticipe déjà sa position dans le box. Et ça, pour moi, c'est une forme de leadership, même si on ne la voit pas. C'est pour moi quelque chose de très important.
C'est un bon moment, merci beaucoup et surtout un gros merde pour la suite parce que Monaco mérite.
On dit Dague Monégou.
Dague Monégou.
Merci beaucoup.
Merci, Sébastien.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir,
coach.
Interview à retrouver sur la chaîne podcast de Rotten sans flamme sur Apple, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de téléchargement ou encore sur les applis d'RMC. Dans un instant, la VAR de Rotten sans flamme. Est-ce que Donald Trump va massacrer la Coupe du Monde? Un grand moment avec Pascal Olmeta et Jean-Michel Larquet. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Ensuite, vous retrouverez l'after pour l'actu foot de la journée. Retour de Jérôme et de toute la bande. Lundi, 18h-20h sur RMC. Dans un quart d'heure, les quiz de Louis Gerbier avec deux doublettes ce soir. Petit Costil et Dugarry, Dimeco. Mais tout de suite, C'est donc la VAR de Roten sans flamme. On parle de Donald Trump.
La VAR de Roten sans flamme.
Et donc l'événement, eh oui, la musique de la Coupe du Monde. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'événement vendredi soir dans Roten sans flamme. Le tirage au sort à suivre en direct à l'intégralité.
Come on, Washington.
Incroyable. Nicolas Pelletier est en direct de Washington DC. Yeah. Hello Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Voilà. Do you speak English?
Ah, little.
Vu l'accent, c'est catastrophique. Ouais. Je t'annonce.
Ah ouais.
Mais non, c'est au quotidien.
Alors que je dis que t'es le Corse le plus américain de la planète.
Non, il y a quelque chose qui est très impressionnant ici quand nous sommes à Washington, c'est que il y a un engouement. Proche de zéro pour cet événement.
Ah, je croyais que c'était la température.
Il y a aussi la température, Jean-Michel. Ah, mais ouais. L'engouement est proche de zéro dans la ville de Washington pour c'est quand même un tirage au sort de Coupe du Monde avec 48 équipes, 48 nations qui vont venir ici à Washington. Il y a un engouement, il y a zéro pancarte dans la ville de Washington pour cet événement.
Ça va être génial.
J'ai l'impression d'être au salon du livre.
Ah, carrément.
T'as croisé Donald Trump ou quoi?
Alors justement, Donald Trump, le président des États-Unis sera bien présent pour le tirage. Et Nico, c'est ce dont on veut parler ce soir parce qu'en coulisses, son influence est immense dans l'orga de cette Coupe du Monde.
Oui, tous les personnels de la FIFA avec qui nous pouvons échanger depuis plusieurs mois nous disent qu'ils ont la goutte au front à chaque fois que Donald Trump prend la parole sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Sur le front.
Et donc, ils ont peur. Ouais. Ils ont peur.
Parce que lui, il n'a pas que sur le front.
Oh, allez. Écoutez,
la goutte au nez aussi, c'est ça.
Vas-y, Nico.
Et donc, il sera le grand l'invité d'honneur de Gianni Infantino vendredi soir pour ce tirage au sort qui aura lieu au Kennedy Center, une salle qu'il a repris en main. C'est lui le patron de la salle qui se trouve à quelques kilomètres de la Maison Blanche. Et donc, vendredi soir, ça sera l'invité.
Il n'y a pas de conflit d'intérêt là, hein?
Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt, surtout pour une organisation comme la FIFA qui se veut apolitique, c'est d'être assez proche du président américain. Ils étaient aussi très proches de l'émir du Qatar. Et donc, on a fait une petite surprise pour Donald Trump vendredi soir parce que son groupe préféré, les Village People, seront les invités d'honneur de ce grand tirage au sort.
Ils doivent être tout frais, les Village People. Mais quel âge ils ont, les Village People?
Mais moi, je croyais que c'était Pascal l'Indien, non?
Ils ont l'âge du Sporting Club de Bastia, ils sont 120 ans.
Pascal, on te voit.
Ah là, à 4h du mat, bourré, ça a souvent été le cas, il y a quelques années.
Mais c'est pas là qu'on met la plume, Pascal. Non, arrête.
Allez, arrêtez de me chauffer, ça va déraper.
Allez, Donald.
Par contre, j'ai mon ami à la Maison Blanche, si tu as besoin. Hein.
Qui donne
un mon ami Flavien.
Flavien
à la Maison Blanche.
Ah.
Ouais, Flavien.
Ah bah, c'est intéressant.
Ouais, qu'est-ce qu'il fait?
Ouais, Maison Blanche.
Ils sont gardes spéciales.
Gardes spéciales, ok.
T'as confondu la Maison Blanche à Paris, le resto?
Bon, vas-y, commandant.
Belle information.
Vas-y,
belle information.
Nico, si tu as besoin, Flavien.
Allez, c'est noté.
Ok, ben, je l'appellerai. Et donc, il y aura un autre élément qui sera très important lors de cette cérémonie, c'est qu'on va remettre pour la première fois du côté de la FIFA un prix de la paix. Donald Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix, mais normalement, vendredi soir, il aura le prix de la paix de la FIFA pour l'ensemble des guerres et des litiges qu'il a résolus. Oui, normalement, on prévoit ça. Et je peux vous donner une petite indiscrétion, c'est que certains membres du conseil de la FIFA, c'est-à-dire les plus hauts représentants de la FIFA, ont appris ce prix de la paix par voie de communiqué de presse. Ils n'étaient même pas au courant de la connaissance
de Gianni Infantino.
Exactement,
que Gianni Infantino a décidé tout seul. Et puis il y a un autre élément qui inquiète fortement la FIFA.
Il y a des éléments moins drôles.
C'est le déplacement de certains matchs lors de cette Coupe du Monde de la FIFA. Que Donald Trump mette son veto sur certains stades qui sont situés dans des villes démocrates, lui qui est républicain. Donc depuis plusieurs mois, il répète qu'il va déplacer les matchs qui sont dans des villes démocrates. On verra
Gianni va refuser, Nico.
Gianni normalement va refuser, mais Gianni s'entend très bien, il est très ami avec Donald Trump et il n'a pas envie de se fâcher avec Donald Trump. Donc peut-être qu'il acceptera.
Non mais là il y a plein d'infos qui font sourire, mais il y a des infos beaucoup plus inquiétantes sur les populations qui veulent se rendre aux États-Unis pour assister à la Coupe du Monde, sur certains pays qui craignent justement de ne pas pouvoir jouer aux États-Unis et d'être délocalisés au Mexique ou au Canada. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qui sont inquiétantes, Nico.
Par exemple, vendredi soir, il n'y aura pas la délégation iranienne. Les représentants de l'Iran ont boycotté ce tirage au sort de la Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas eu les visas nécessaires pour pouvoir accéder au territoire américain. Et il y a un autre élément qui inquiète beaucoup la communauté haïtienne qui est très présente ici aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de visa qui sera accordé pour les supporters haïtiens pour venir supporter leur équipe aux États-Unis. Et on se demande même, certaines personnes nous laissent même entendre, si certains matchs de l'équipe d'Haïti ne seront pas tout simplement au Mexique. Et on ne jouera, l'Haïti ne jouera peut-être jamais aux États-Unis sur cette Coupe du Monde qui se déroule sur trois pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis.
Merci Nico. Là, on en sourit, mais est-ce que ça vous inquiète tout ça, tout le cirque autour de Donald Trump et de la FIFA?
J'espère qu'ils vont nous donner le droit, nous, de venir aux États-Unis.
Pascal.
Ça, je pense que c'est. Non, mais Jérôme, il pense que.
Que quoi?
D'avoir que son visa. Non, mais les gars.
Mais je plaisante. Tu crois?
Oui, je généralise, Jérôme. Ouais. Non, mais je veux dire par là que tu imagines ce qu'on entend, là.
Ben oui.
Mais il va se permettre de. Allez, telle équipe ne rentrera pas aux États-Unis, vous irez jouer au Mexique. Non, mais les gars. Mais
c'est dingue.
Les gars.
Et les supporters qui ne peuvent pas venir non plus.
Exactement. Mais c'est exactement dans la droite ligne de ce que je disais. Voilà un type, je l'exècre, je ne supporte pas, qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire que quand il y a un problème politique dans la fédération du Cameroun, il précipite ses hommes pour que les affaires sont réglées. Et là, on a l'impression qu'il est en train de ramper devant le président des États-Unis. Enfin, j'ai même l'impression que ce n'est pas qu'une impression, quoi.
Ouais, ah non, c'est pas une impression, non.
Non. Jérôme. Et c'est terrible.
Qu'est-ce que tu veux que je réponde à
ça nous inquiète tout ça.
Bien sûr que ça nous inquiète. Ce que nous dit Nico, ça fait froid dans le dos. Il y a des personnes qui sont, ils vont être interdits de séjour parce que haïtiennes ou d'autres. Même la sélection, elle risque de pas jouer aux États-Unis parce que Monsieur Trump en a décidé autrement.
Et que Gianni Infantino l'accepte.
Mais
de toute façon.
Alors que la FIFA est censée être apolitique.
Et de toute façon, quand tu vois qu'il il est à fond dans cette organisation de la Coupe du Monde. Tu sais très bien qu'il va mettre son nez partout, qu'il va réussir certainement à délocaliser certainement. Alors ce qui serait incroyable d'accepter ça quand t'es la FIFA et que t'organises l'événement planétaire, le plus grand événement planétaire de sport. En fait, c'est toujours la même chose. De toute façon, c'est oseille. Là, c'est mélangé avec de la politique. Écoute-moi, c'est problématique. Nous, dans le sport, on a été éduqués d'une façon où, en effet, l'argent, on en a profité et on en profite. Et sans argent, tu fais pas grand-chose. Mais la politique, elle n'existe pas. Et que là, il va tout mélanger, celui-là. Mais tous ceux qui ont fait des débats sur la Coupe du Monde au Qatar, il y a 4 ans, j'espère qu'ils vont se rebeller après tout ce que Nico vient de nous annoncer et ce qui risque de se passer. Je pense qu'on en entendra beaucoup moins qu'à l'époque au Qatar.
Il y a des sujets qu'il faut dénoncer. Tu as bien raison. Merci Nico. Continue ton reportage à Washington et surtout tu seras là vendredi pour le tirage au sort de la Coupe du Monde.
Nico, je sens sur les hamburgers, sur les milkshakes.
Non mais je vous ai dressé la carte postale tout à l'heure, mais je trouve ça quand même inquiétant de voir peu d'engouement sur
un
tirage. C'est peut-être l'élément le plus important avant la Coupe du Monde.
Tu es sûr que c'est au bon endroit?
T'es dans la bonne ville, Nico? T'es pas à Milwaukee?
T'inquiète, j'ai récupéré mon accréditation.
Didier Deschamps, il arrive quand?
Il arrive demain.
Écoute, propose une interview. De toute façon, il les refuse plus.
Et
maintenant.
Pourquoi pas, Et appelle l'ami de Pascal, surtout, qui fait partie de la Maison Blanche.
Pourquoi il y aurait un engouement pour tirer des boules? Je comprends pas.
Allez, merci Pascal. Merci à Nico Pelletier.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Il est à son meilleur niveau à travers les matchs que je lui vois faire, puisqu'il joue des matchs tous les trois quarts de jour, parce que eux aussi, au-delà de leur championnat, ils ont la Ligue des Champions, même si c'est la Ligue des Champions d'Asie. Donc, il est à son meilleur niveau. Il est toujours potentiellement sélectionnable. La preuve, puisqu'il est, il est sélectionné. Et, donc, c'est toujours un plaisir pour lui de porter ce maillot.
La VAR de Rotten sans flamme.
Ça te fait rire, Jean-Michel.
C'est quoi ? Sélectionnable ?
Oui, parce qu'il a été sélectionné. Tout à fait. Ça fait donc un an qu'on n'a plus vu N'Golo Kanté en équipe de France. Il a 34 ans. Il est de retour pour les deux matchs de la semaine prochaine. France-Ukraine le 13 novembre. Azerbaïdjan-France le 16. Kanté évolue toujours en Arabie Saoudite à Al-Ittihad. Il a vécu pas mal de choses avec l'équipe de France. 64 sélections. Champion du monde, évidemment, avec cette doublette mythique avec Paul Pogba. Il profite des forfaits de Rabiot et de Tchouaméni. Il est préféré, par exemple, à un Corentin Tolisso. Est-ce que vous comprenez le retour d'N'Golo Kanté en équipe de France? Jérôme, est-ce que tu es surpris ou est-ce que tu le comprends?
Non, mais moi, je le comprends. Et là où je suis surpris, c'est que Didier lui ait tourné le dos comme ça. Il l'a pu appeler après. Pourtant, à l'Euro, et on y était... les matchs, ça a été un des joueurs, surtout au début. Après, ça c'est un peu compliqué, mais ça a été un des joueurs qui a donné le plus de satisfaction. Alors tu vas me dire, c'était pas bien dur parce que la prestation de certains était plus que mitigée.
Des noms.
Un des plus réguliers quand même.
Ah oui. Oui, c'est pour ça, Jean-Pierre. Et moi, je comprends qu'il reste en grande forme dans un championnat où il joue la Ligue des Champions. Bon, Didier, il va un peu loin quand même parce que la Ligue des Champions d'Asie, je vous encourage à la regarder de temps en temps. Je suis tombé la dernière fois sur un match. Franchement, c'est juste le nom, la Ligue des Champions, hein, parce que en termes de rythme, tout ce que tu veux, comme l'Arabie Saoudite, mais N'Golo Kanté,
je suis bien.
Bah, c'est plus sur Canal, alors je sais plus où tu les regardes.
Sur Twitch, Zach Nani,
ouais. Bah oui. Ouais, qu'on embrasse. Ouais. Mais moi, je vais juste sur N'Golo, je suis pas étonné qu'il le rappelle, parce que si t'as bien une certitude sur la conscience professionnelle et sur le fait que N'Golo, qui joue tous les matchs à deux à l'heure, lui, il les joue pas à deux à l'heure parce qu'il a trois poumons. Voilà. Et ça changera pas. Donc moi je suis pas étonné, j'étais juste déçu de plus le voir en équipe de France. Là le fait qu'il revienne, peut-être que c'est bon signe pour continuer à le voir et pourquoi pas jusqu'à la Coupe du Monde.
Enfin, méfiez-vous hein, parce que Cristiano Ronaldo vient d'accorder une interview dans un média britannique et il vient de dire le championnat d'Arabie Saoudite est bien meilleur que la Liga portugaise et que la Ligue 1. Donc il confirme que le championnat
là, il a rajouté la Liga portugaise.
Ouais. La Liga, mais il a CR7, il a pas.
Bah non, il a regarde certainement. Il la regarde, c'est pour ça qu'il juge. Enfin,
passionné. C'est mieux d'y jouer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, N'Golo Kanté?
Moi, je pense que d'abord c'est un garçon dans le groupe. Tu sais qu'il va pas faire de vagues et que c'est un garçon qui est
pour ça,
un bon soldat, un vrai bon soldat. Que si tu le mets sur le terrain, il va faire son match. Il va être moins performant qu'il ne l'était il y a 4-5 ans, c'est évident. Mais je reste persuadé qu'en...
Et encore, ouais, c'est ça.
Là, vous êtes... n'envoyez pas le bouchon trop loin, quand même. Je veux bien qu'on soit gentil avec N'Golo, mais les années passent, et pour lui également. Mais... Je suis quand même un petit peu d'accord avec vous quand vous parlez de Tolisso. Moi, j'ai été surpris par son retour en forme et son retour au plus haut niveau avec l'Olympique Lyonnais où il a fait basculer des matchs. Je le trouve très bon. Alors, honnêtement, je regarde plus l'Arabie Saoudite et les matchs parce que je sais pas où il faut les regarder.
Ah, si, on l'a dit sur Twitch.
Non, j'ai pas Twitch. Je savais même pas que ça existait.
Oh, quand même, monsieur.
J'aurais quand même peut-être donné sa chance à Tolisso, mais au-delà du fait de Kanté, Tolisso, et quand je vous revois, quand je vois le retour de Colomouani à la pointe de l'attaque, je me dis que le fameux réservoir de l'équipe de France,
le réservoir de Didier Deschamps,
J'ai l'impression quand même que le réservoir, il est peut-être un petit peu. On est un peu sur la réserve là.
T'as vu tous les blessés qu'il y a aussi.
Donc le réservoir, il est là le réservoir quand il y a les blessés pour compenser les blessures.
Mais là il y en a beaucoup.
Et il y a des choix, hein. Bouba Camara par exemple n'est pas appelé alors que ça reste un joueur de qualité.
Ouais, et Pierre Lesmélo aussi, il aurait pu l'appeler, hein.
Ouais, mais vous connaissez Dédé, il aime ce qu'il connaît, il a confiance, il y a pas de souci par rapport à ça. Et je pense que dans le groupe de Dédé, c'est important, cette valeur là, elle est importante. Déjà qu'on l'emmerde pas, quoi.
T'es surpris de le voir, toi, N'Golo Kanté ou pas, JPP, alors?
Non, bah non, pas du tout.
Alors, oui, surpris, parce que c'est vrai que c'est pas un nom qui est ressorti depuis quelque temps. Il était un petit peu perdu là-bas en Arabie Saoudite. Après, sincèrement, le joueur, moi, m'a toujours beaucoup plu. Et il a toujours porté fièrement le maillot bleu, il a toujours été bon. Donc, ouais, moi, c'est pas un choix qui me dérange plus que ça.
Bah oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi, Jean-Pierre, là-dessus. Franchement, c'est difficile d'être critique sur N'Golo à tous les niveaux. Le mec, il fait pas de bruit, il est là, il vient toujours avec le sourire, il fait des bons matchs parce qu'il a toujours fait ses matchs. Et moi, là où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Michel, c'est que même s'il vieillit, mais n'empêche que N'Golo, à chaque fois qu'il a été pris en sélection, qu'il a joué, on n'a pas senti le poids de l'âge. Donc j'imagine qu'il sera pas moins performant qu'un Tchouaméni quand il joue ou qu'un Rabiot quand il joue. Voilà. Donc
Ah, mais ça c'est autre chose, ça c'est une autre question. Ça,
ah bah si, parce que tu me dis.
Je suis d'accord avec toi.
Si tu me dis N'Golo, il vieillit, donc il peut plus faire ses allers-retours. C'est sûr que si N'Golo, il est pas au four au moulin sur le terrain comme il a toujours fait, c'est problématique.
Ah, ben voilà.
D'accord. Mais sauf que j'ai la certitude, je regarde pas les matchs d'Arabie Saoudite, mais bon, je pense que Didier en regarde quelques-uns pour le rappeler quand même. J'ai la certitude qu'il arrive en très bon état et que vous verrez, on sera encore surpris de l'état physique de N'Golo.
Tu n'étais pas un fervent supporter de Tolisso, toi. Tu aurais
pas. Non, mais Tolisso, non, mais je veux pas. Quoi. Non, mais déjà, c'est incomparable parce que c'est pas du tout les mêmes joueurs. C'est pas
milieu terrain.
C'est oui, bah, d'accord, les gars. Non, mais c'est deux milieux terrain, mais il va pas demander la même chose à N'Golo Kanté qu'à Tolisso.
Après sur le début de saison,
il joue plus haut maintenant, Tolisso.
Il peut le faire.
Ouais, bah d'accord. Donc en équipe de France, en fait, tu vas déplacer un mec qui joue un peu.
Tu mets bien Warren Zaïre-Emery arrière droit. Ça te pose pas de problème.
Mais Warren Zaïre-Emery, il est pris en équipe de France au milieu de terrain. Mais moi, j'estime qu'au milieu de terrain, il n'a pas sa place dans le groupe France. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et que par exemple, si t'as tout le monde, t'as Rabiot, t'as Tchouaméni,
mais ils sont pas là.
Non mais si tu les as, Jean-Pierre, moi, je suis. C'est là que je suis déçu sur Didier Deschamps, sur la façon qu'il a à gérer N'Golo Kanté. Mais quand tu appelles Warren Zaïre-Emery, qui était complètement à la ramasse depuis un an, qui est pas au niveau international, et même encore là, c'est pas parce qu'il a été bon quelques matchs que ça y est, maintenant il faut le remettre. Il faut mettre N'Golo Kanté en priorité. Moi, c'est ce que je pense.
Et tu penses qu'il sera titulaire au moins sur les deux matchs?
En même temps, on rappelle, l'équipe de France a besoin d'une victoire ou alors de deux matchs.
Ouais, moi je le vois bien avec.
Attention.
Je le vois bien jouer.
J'ai entendu Jean-Pierre Papin.
Oh là là,
méfiez-vous. Pardon, je voulais pas réveiller les
non, mais Jean-Pierre et Jean-Michel, moi je suis sûr qu'il va jouer avec Koné et Kanté.
Ah, tu penses que Kanté vient pour jouer?
Ça sert à quoi de l'appeler si tu ne penses pas le faire jouer?
La semaine prochaine.
Au moins le premier match.
Ouais, on verra. Écoute, en tout cas, c'est face à l'Ukraine.
Par contre, sur la saison de Tolisso, c'est vrai que ça aurait été mérité d'être sélectionné pour le retour qu'il a fait. Parce que franchement, c'était pas évident.
Il y a un joueur qui a été.
Toi, t'es gentil, Jean-Pierre, tu veux faire plaisir à tout le monde. Toi, t'es gentil.
Non, mais Tolisso, mais Tolisso, c'est plus que la qualité du joueur. C'est peut-être un problème de personne aussi.
Il y a un autre joueur absent qui aurait pu être là, c'est Matteo Guendouzi, qui n'a pas été appelé, qui jouait avec la Lazio et qui n'a pas été appelé.
Ça, c'est un joueur préféré de Jean-Michel.
Tu m'allumes.
C'est vrai, c'est un fait. Moi,
entre Matteo et Aurélien, il les a tellement torpillés.
Comment on dit aux Pays-Bas, il va m'énerver.
Bah quoi, Matteo Guendouzi joue tous les matchs à la radio, là, il n'est pas appelé, moi je comprends pas.
Jean-Michel, j'ai une question moyenne pour toi. Tu préfères qui, Guendouzi ou Tchouaméni?
Oh là.
Hein? Ah d'accord, bon, c'est bon.
C'est difficile, écoute, laisse-moi réfléchir au moins le week-end. Là. Au moins.
Et dans un instant, la fin des best-of, des meilleurs moments de Rotten sans flamme avec les quiz de Louis Gerbi. À tout de suite sur
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme, jusqu'à 20h ce soir sur RMC, le grand retour en direct de l'émission. C'est lundi avec Jérôme, toute la bande, pour lancer cette deuxième partie de saison. On est vraiment ravis et impatients de vous retrouver. Et tout de suite, pour clôturer cette émission best-of, les quiz de Louis Gerbier. C'est parti.
Et sur le terrain.
Tous contre Rotten.
Salut Louis.
Salut Louis.
Salut Louis. T'es du gars, tu t'imagines, en plus que tu as perdu le procès, il manquerait plus que tu aies une mauvaise note. Quelle soirée, quoi.
Ah bah tu verras, écoute le podcast, tu peux être surpris.
Ah putain, il va plus venir, du gars.
Non, Mathieu, pour quelqu'un qui a regardé tous les matchs de Ligue 1, je peux pas le mettre mauvais.
La récompense.
Bonsoir l'équipe.
Allez les gars, on se dépêche, on est en retard. Mathieu, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Le reste du monde.
Ah bah dommage.
Allez, et Benjamin et Jérôme.
Allez Benji, on va les plier.
Maison Scarlett, vas-y Louis.
Alors les amis, vous avez fait un débat sur l'OM en tête.
Ouais. Oh non. Non, mais c'était il y a 20 ans ça.
Ouais, donc alors on va faire un quiz l'OM champion.
Là on y est.
Excellent.
Alors, en quelle année l'OM a été champion pour la dernière fois?
2010.
Très bien joué, Eric.
Non, mais t'es pas de Marseille, t'es de Rognon, c'est normal.
1-0 pour Jérôme.
2010, ouais. Ça remonte quand même, hein. Ça aurait presque pu faire une question là. Attention, il faut me donner deux réponses.
Oh là là.
Combien de Ligue 1 a gagné l'OM? Réponse 1 selon la FFF, réponse 2 selon l'Olympique de Marseille.
10 selon l'OM, 9 selon la FFF.
Eh ben non. 9. L'OM, ils en comptent encore une de plus.
10 et 11.
Ah non.
9 et 11.
Voilà, bonne réponse.
Bravo du gars.
Puisqu'on compte aussi le championnat amateur de 1929.
Très bien. Bah nous aussi on le compte.
On en apprend tous les jours.
Allez, un partout.
Question auditeur.
Ben pourquoi on le compte pas, je comprends pas moi.
Question auditeur, Mathieu contre Benjamin.
Qui était l'entraîneur lors du dernier titre de l'OM en Ligue 1?
Deschamps.
Point pour Jérôme Breton. Question auditeur.
Peut-être qu'en 2030, vous aurez compris le principe de la question.
Déjà qu'ils ne s'entendent pas entre eux, mais ils n'écoutent pas les questions.
Les questions du gars où tout le monde répond.
Ouais, mais
Louis, quand il parle, il bafouille. Il a la moitié du temps.
Alors que toi, c'est limpide. Question du patron.
Salut, c'est Jérôme Breton.
RMC. La question pour le patron.
Allez.
Toujours il l'année. Il des notes, il se fait appeler patron. Il a un boulard, le mec, sans déconner.
C'est pas moi.
Non, mais il va falloir arrêter.
Et tout le monde répond.
Ouais. Tout le monde
répond. Pas un peu trop, les gars.
Laissez-moi finir l'année.
Tout le monde répond. Quel ancien coéquipier de Jérôme à Monaco a été champion avec l'OM cette année-là?
Morientes.
Oh, bien joué.
Oui, bien sûr.
Deux partout, bravo.
Morientes, il était dans le.
Eh ouais.
Mais bien sûr.
2-2.
L'effectif.
Question con, le jeu de mots douteux.
Ah.
Quel arrière droit champion en 2010 avec l'OM?
Il est bonheur.
Oh là 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 là. 3-2 pour Jérôme.
Ah, je suis déçu parce que j'avais toute une phrase et tout.
Ah, vas-y.
Mais elle est pourrie ta question. Quand tu dis l'arrière droit, tout le monde le connaît quand même. T'es nul, Louis, quand même, à un moment donné.
C'est pas Abi Bey, pas gagné un titre.
Bonnard qui a fini sa carrière à Châteauroux.
Très intéressant.
Question flash. Quel autre champion avec l'OM en 2010 a fini sa carrière dans le merveilleux club de la Berrichonne de Châteauroux?
Ah, je l'ai.
Et formé à Rennes.
Je l'ai.
Il est formé à Rennes?
Oui.
Leroy?
Non. Défenseur central?
Ou milieu de terrain? Cissé?
Milieu de terrain ou défenseur central?
International camerounais.
Ah oui, c'est comment il s'appelle déjà?
Camerounais.
Camerounais,
quand même. Très fort.
Mais comment il s'appelle?
Mbia, bravo du gars.
Mbia. Ah voilà, Mbia.
Toujours
3-3. Ouh là là.
C'est le petit point hebdomadaire sur la qualité de la fibre au Maroc. Et encore une fois, c'est nickel.
Ça marche bien.
Allez, c'est la roue déjà.
On est champion du monde de nous, s'il te plaît.
La roue peine.
Oh, c'est la roue déjà. Il y a quoi là, Mathieu?
Il y a 3 partout.
Benoît répond pour tout le monde.
Il y a 3 partout.
Sauf pour Jérôme.
Non. C'est moi qui réponds.
Là, il n'y a personne.
Et moi, je joue avec le reste du monde.
Bah, je pense que le producteur a une dent contre Jérôme ces derniers temps.
Si j'ai faux, c'est Jérôme qui gagne.
Question Costil alors.
Oh, arrête, c'est un gardien.
Non, question Costil.
Non mais j'espère qu'elle est dure ta question.
Oh oui, Greg, il est sort.
Ça veut dire quoi Costil?
Oh oui, va opposer Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
La question Costil, c'est qu'on cherche un gardien.
On cherche un gardien.
D'accord.
Gardien mythique de Ligue 1, Benoît. Et vous avez compris là-haut que vous ne pouvez pas répondre, il n'y a que Benoît.
Il n'y a que moi qui peux répondre.
Cette année-là, en 99, c'est le titre qu'ils n'ont pas gagné à cause du Paris Saint-Germain et que Bordeaux a remporté.
Arrête.
On est en 99.
Ouais, tu te fous de ma tronche, toi.
Cette année-là, qui garde les buts marseillais?
Oh, mais arrête.
Il est vieux, je crois, Benoît, donc il va le savoir.
Non, mais...
Moi, je dirais Stéphane Porrato.
Bonne réponse de Benoît Boutron.
Vraiment,
et bravo, reste du monde. C'est et oh, c'est là où je suis tombé amoureux de l'OM. Bravo, en tout cas, à Mathieu qui remporte ce magnifique cadeau.
12 contre Rotten et sur RMC avec Maison Scarlett. La marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Ah, rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Une semaine avec des champions.
Ils sont fâchés, mais ils ont gagné le quiz. Ouais. Bravo à Christophe Dugarry et Eric Dimeco.
RMC. Tous contre Rotten.
Ouais. Salut Louis.
Salut l'équipe.
Venez, venez.
Louis Gerbier qui est là. Et deux auditeurs, deux supporters de l'OM ce soir, Florian et Cédric. Salut à vous deux.
Salut les gars.
Ils vont être champions.
Est-ce qu'il y en a un qui veut jouer avec Jérôme?
Non.
Je veux bien jouer avec Jérôme.
C'est qui ça, les deux?
Bah, c'est le plus objectif.
C'est Florian. Ouais, Florian. Florian avec Jérôme. Cédric avec Jérôme.
Je veux bien, il était désespéré.
Je veux bien avec Jérôme.
Ouais, c'est clair. Le cadeau, une carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett, fabricant français de boîtes à bijoux et de boîtes à montres. Vas-y, Louis, c'est parti.
Il a dit je veux bien, on a entendu, j'ai pas le choix.
Tu es pas obligé d'en rajouter. Non, mais attends.
Le thème du soir, Bayer PSG.
Ouais, Bayer.
Là, vous m'avez pas vu venir.
Manu fait très bien l'accent. Allemand.
Oui, bah on va éviter.
Non, je veux pas choquer les auditeurs.
La dernière fois, je t'ai appelé le grand blond, c'était tout un drame.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as oublié les yeux bleus.
Oui, ouais. Bah oui, parce que j'ai trouvé pas.
C'est la caricature.
C'est vrai, allez, on y va.
C'était pas.
Question flash.
C'est pour... pas folichon.
Ouais. Pour se mettre dedans, là, quel est le nom du stade du Bayer Leverkusen?
Bah oui, ça c'est un bah, super
on
stade.
Pas, on laisse les smartphones, on trouve pas.
On laisse les smartphones. C'est le Bayer Arena, non?
Eh ben non, c'est la Bayer Arena. Ah.
Et eh ben voilà.
Bah,
mais pourquoi t'as pas dit Ben Costil? Il avait peut-être.
Ce que j'ai dit, arrête.
Ouais, mais parce que.
Non, je l'avais pas. Non, je l'avais pas, honnêtement.
J'ai dit la Bayer Arena, c'est ça?
Non, c'est juste Bayer.
Bayer Arena.
Mm. Ah, wow. Et 3 points à celui qui me donne l'ancien nom en 5 secondes.
L'ancien Leverkusen Stadium.
Ouais, bah ça c'est 5 secondes. Ou le Richard Berland Stadium.
Ah, oui, comment tu veux qu'on sache?
C'est pour ça qu'elle valait 3 points.
Allez,
question du patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
Oui. RMC, la question pour le patron.
Quel Titi parisien transféré au Bayern, pour 14 millions à 11 sélections en équipe de France?
Il connaît.
Non, c'est pas il connaît.
Non, c'est l'autre.
11 sélections.
On sélectionne.
Djabi, Moussa Djabi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ah, tout le monde peut répondre.
Bah, c'est bon.
Bravo, Ben.
Tu peux répondre?
Ouais.
Je pensais que c'était pour
Djabi,
le bot.
J'ai confondu. Non, tout le monde peut répondre.
J'ai confondu
question,
avec. Le, avec
1-0 pour le reste du monde. Bravo, Benoît.
Allez, une petite question.
Merci bien.
Le jeu de mots douteux. Quel ancien parisien et ancien joueur du Bayer aurait été boulanger s'il avait été anglais?
Baker.
Baker.
Allez.
Ah oui. Yeah, Baker, man.
Pour ça, il faut être bilingue. J'y suis. Non. J'y suis.
Ouais, mais avec l'accent écossais.
Baker Street, ça l'envoie. Bilingue, mais en allemand.
2-0 pour le reste du monde.
Question d'Imeco.
Bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Nous sommes à la recherche d'un joueur de plus d'1m90 qui joue au Bayer actuellement. Il a commencé au Paris FC, puis au Havre, et puis à Lens, au Stade Rennais, à Nottingham Forest, à
Terrier,
à Séville.
Baldé.
À 90.
Oh, Badé, Loïc Badé.
Loïc Badé de Emmanuel
Pérez. Qui on le donne? On le donne à Manu qui a dit Baldé en premier ou à Ben Costil qui a dit Badé?
Je me suis trompé.
Il a dit Baldé.
Ah oui, vrai, mais ça a été répété.
Je confonds du entre deux joueurs.
Ça fait 3-0 pour le reste du monde. Jérôme est pas du tout dedans. Ça ne lui rien bon pour le PSG.
Non, mais on finira comme les Grecs. Sortez vos liquidités. Non, je rigole pas.
Il y a l'espoir.
Faites gaffe à votre épargne. Placez votre argent.
La question GG.
Ça fait peur.
De quelle grande ville allemande Leverkusen est-elle la proche banlieue?
Munich.
Non.
Hanovre.
Dortmund.
Hanovre.
Peut-être parfumé un peu.
Berlin. Cologne.
Oui, bonne réponse de Jérôme. Il est là. Il reste
Cologne.
3-1. Allez, une dernière question sur l'actualité, une question con numéro 2. Quel joueur de Leverkusen est toujours sur son 31? Il est blessé en ce moment.
Ah oui, en plus, alors.
Tout, et genre, à chaque fois qu'il débarque, il est toujours.
Réfléchissez.
Patrick Schick.
Oui.
Ah oui, Schick. Voilà. Ouais.
4-1.
Mais il joue pas ça.
Non, il joue pas, il est blessé,
on t'a dit.
Je pense qu'il était revenu.
En 2014, il y a eu un huitième de finale, Leverkusen PSG.
Ah, on s'en souvient.
0-4 à l'aller, 2-1 au retour pour Paris Saint-Germain. On commence à ce sujet, sur ce match, avec une question auditeur, Florian Cédric.
Allez.
Quel joueur parisien a marqué son premier but en Ligue des Champions lors de la confrontation contre Leverkusen en 2014?
Le Latan?
Non. Son premier de sa carrière en Ligue des Champions. C'était un défenseur.
On peut pas répondre.
Non,
Marquinhos.
Oui, bonne réponse.
Qui a dit Marquinhos?
Florian.
Ça fait 4 à 2.
Question petit.
Ah. J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe. Ah,
le top, c'est de faire les trois en même temps, en fait.
Ouais.
Oula.
Mais je suis pas sûr d'y arriver sur la saison, parce que c'est déjà un, c'est dur. Quel joueur, donc on est toujours en 2014, hein, Leverkusen PSG, joueur réputé fêtard et porté sur la chose était titulaire au PSG
Verratti.
Lors de l'aller et du retour?
Ah, je l'ai.
L'Avezzi.
Bonne réponse.
L'Avezzi.
Bravo. Et Ben Costil, il est stratosphérique. Ouais. Ça fait 5-2.
Ça va, j'ai une réponse. Il calme
triche. Tout ce qui est festif, j'aime bien.
Il triche.
Et le délicat.
Non, mais vraiment, faut être une belle équipe.
Quelle star de Tottenham était titulaire pour Leverkusen en 2014?
Son.
Bien joué. Oh,
putain. Ah, oui. 5-3. Ça débite, hein.
Question Costil.
Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Quel joueur non, je viens de la dire celle-là. Qui était le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain lors de cette confrontation en 2014? Vous aviez Sirigu dans les
2004.
Nico Duchesse.
C'est Jérôme juste avant Nicolas Duchesse.
4, c'est moi. Très serré.
Dis la douche.
Oh. Eh, là vous trompez pas, je vous le dis. Hein. Je fais plus le quiz de l'année.
La bonne réponse vaut 3 points.
Donc c'est une balle de match entre Jérôme et le reste du monde.
On va faire un truc un peu dur alors. Question Tirandiconte.
Tirandiconte, si tu poses une question à un supporter italien dans quelques années, qui est cette plus forte?
Et on embrasse
Coach
Courbis. Avec l'accent italien de Coach Courbis. Hein.
La réponse avec l'accent italien de Coach Courbis, on cherche un défenseur parisien lors de ce match. Qui est passé ensuite par Cagliari.
Défenseur quoi?
Défenseur pour l'instant. Après je
vais dire
le match Paris-Leverkusen 2014.
Ouais. Il est titulaire lors de Paris-Leverkusen en 2014. Il jouait en défense et ensuite il est
côté de Paris.
Oui, côté de Paris.
Qu'est-ce que tu es pour fort, Thiago Silva?
Non.
C'est quoi ta question?
Alex, non. On cherche un défenseur parisien qui a joué lors de Paris Saint-Germain Leverkusen en 2014.
Quelle nationalité?
Et qui ensuite est parti à Cagliari.
Lugano, j'ai une grosse connerie.
Non.
Avec accent italien de Coach Courbis.
Oui, l'accent. Indice, heureusement qu'il est grand, sinon il aurait été retrouvé mort dans la Vologne.
Ah, Grégory.
Oui.
Grégory. Qu'est-ce que tu es pour fort, Van der Ville.
C'est
Manu. C'est moi.
Grégory Van der Ville.
Manu l'a dit.
Manu est non, du, il a dit Grégory.
Et moi j'ai enchaîné sur Van der Ville.
Il a dit trop
l'accent. Et vous dites pas l'accent italien.
Qu'est-ce que t'es plus fort?
Et donc c'est la victoire de Jérôme Roten et de Florian qui remporte un magnifique cadeau.
Donc victoire PSG. 12 contre Roten sur RMC avec Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Un grand merci à Louis Gerbier,
merci
à Ben Costil, à Manu Petit. Et voilà les meilleurs moments de la saison de Roten sans flamme. Et je suis ravi de vous retrouver dès lundi avec Jérôme, avec toute la bande pour la deuxième partie de saison. On va se régaler jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Bonne soirée à tous sur RMC. Bye bye.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.